102.1.
Émission en jase de ton 1er avril, ton émission d'actualité à Boulevard 102.1 de l'heure du midi. C'est de midi à 14h avec Jeff Fortin, Pascal CV, le caucus avec Antonine Iaccarini de midi à 12h30. Pour nous joindre, 418-971-1021. Pour nous texter, réagir, on adore vous lire en ondes. On aime beaucoup également vous répondre. BLVDFM, c'est notre web radio, c'est les meilleurs moments qui se retrouvent là également de tous nos shows sur l'antenne de Boulevard 102.1. Boulevard 102.1, App Store, Google Play Store, c'est notre application, ça vous permet de nous écouter partout où vous êtes, dans la province, dans le pays, voire même aux États-Unis. Twitch.tv/BLVD/FM pour venir voir nos petites faces en studio. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Le caucus avec Antonine Iaccarini s'y retrouve notamment à chaque jour. Météo, là, je me suis levé un matin et j'ai fait « Hey boy, les filles, êtes-vous tannées de cette neige-là? » Moi, un matin, j'ai pogné un 2 minutes là, d'ordre de neige de char. Ah, j'étais tanné.
Il y avait même un petit grésil. En tout cas, moi, quand je suis sorti quelques heures après toi, est-ce que tu fais le show du matin, un petit grésil qui s'est installé, mais vu qu'il fait pas trop froid, ça, c'était pas trop difficile à enlever. T'as un poisson d'avril ou quoi, la météo, là?
Moi, je regarde plus dehors.
Ah non, mais c'est rare que je chiale après la météo, mais là, à matin, là, j'ai fait « Oh! » Là, ça me tentait pas.
On veut ranger nos bottes. On veut enlever nos tapis de char. On veut plus de garnottes dans nos entrées.
On veut pas entendre dans ta fenêtre de maison parce que le voisin, il déglace.
C'est vrai qu'on entend le voisin déglacer.
Vraiment,
je me suis excusée au facteur un matin en passant parce que il n'y a plus de sel nulle part, là. Puis toute notre allée est glacée. J'ai dit, je suis tellement désolée. Il dit, moi, c'est pas compliqué. Il dit, quand c'est trop glacé, je passe tout droit. Puis je repasse quand il n'y a plus de glace. J'ai comme, tabarouette, va avoir du retard dans mon courrier parce que c'est pogné en pain.
Il n'est pas passé depuis 2 semaines.
Genre.
Alors, justement, la météo, c'est 1 degré présentement, 40% de probabilité d'averse, de neige, risque de bruine verglaçante.
T'es donc bien smart, Jeff.
On est encore dans l'hiver. Ce soir, ça va être moins 5. Pour demain, jeudi, c'est 4 degrés. Alternance de soleil et nuages, pas de précipitation au menu, mais 5 degrés, neige ou pluie pour vendredi, là, dépendamment à quel moment dans la journée tout cela va tomber. Alors, c'est ce qui est prévu à la météo pour les 3 prochains jours. Pascal CV, que se passe-t-il dans l'actualité? Les 3 nouvelles principales, s'il vous plaît, avant qu'on passe au caucus avec Antonine Iaccarini.
Un chum, c'est un chum, puis il revient à la maison du côté de la CAQ. Ben, surprise, hein, à l'Assemblée nationale. C'est Lionel Carman qui annonce son retour plus tôt que prévu au sein du parti politique. Et c'est la presse qui a appris ça. On mentionne que l'ex-ministre a choisi d'accompagner son ami, et on le mentionne aussi, François Legault, jusqu'à sa sortie. Fait qu'il va y tenir la main jusqu'à temps que François Legault quitte officiellement. Et il envisage un retour en cas de victoire de Christine Fréchette à la chefferie. On en parle dans un instant avec Antonine Iaccarini. Sinon, pour les sondages, ben, le PQ et le PLQ sont nez à nez. On a appris ça hier, le Parti québécois puis le Parti libéral du Québec qui se retrouvent au même pied d'égalité selon les résultats d'un nouveau sondage. Sondage qui a été mené du 20 au 22 mars. C'est assez collé sur la journée d'aujourd'hui. Et on est à 33 % pour les intentions de vote des deux partis. Il y a une petite baisse là, d'un point pour le PQ puis une hausse de 3 points pour les libéraux. Également dans l'actualité, c'est un regret hein, quand même d'annoncer le décès de l'auteur, scripteur, metteur en scène et réalisateur Louis Saya à 75 ans suite à une courte maladie. On en parle partout. Et du côté de Lévis, Jeff, on est à la recherche d'un fugueur à risque de criminalisation, donc arrestation de 3 individus qui s'apprêtaient possiblement à s'introduire dans une demeure pour y séquestrer une victime hier. Et là, le service de police de Lévis met à contribution un petit peu tout le monde pour faire des vérifications du secteur de Masquinongé. On veut retrouver un mineur de 15 ans.
En hommage à Louis Saya.
OK. Les blacks sont gros, sont forts. Des grosses peaux. Font peur. Font peur! Mais c'est quoi notre force, nous autres, les boys? Hein? Ça sera pas entre les deux oreilles, peut-être? Pense que oui, moi. Les boys et les Américains ont une expression pour ça que j'aime particulièrement. J'ai lu ça quelque part. The mental. Le mental. Mental toughness! La dureté du mental!
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonine Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans Le Caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici Le Caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Antonine Iaccarini, t'as-tu La dureté du mental comme Bob Chicoine, interprété par Marc Messier dans Les Boys 1.
Quand on regarde les prévisions météorologiques, on n'a pas le choix.
Quand on regarde le prix de l'essence aussi, j'imagine.
Ah, je le regarde pas.
1,89.
Je regarde pas ça. Je regarde pas les prix à l'épicerie. Je regarde plus rien. Je fais du déni.
Mais exactement. Ça fait quoi sinon? T'as pas le choix de t'inquiéter.
C'est ça. En passant, GasBuddy, c'est une application que vous pouvez télécharger qui est très pratique. Mais il y a aussi la Régie de l'énergie qui a sorti Régie de l'essence. C'est une carte interactive. À la différence de GasBuddy, c'est que GasBuddy, les gens vont donner volontairement le prix de l'essence, alors que la Régie de l'essence, ben, c'est une carte interactive régie par le gouvernement. Donc, on a les vrais prix, justement, à chaque détail.
L'affaire, c'est qu'on l'a testé ce matin. Moi et Mathias, on s'amusait. Mathias et moi, à regarder un peu comment ça se passait. Puis, on n'est pas impressionnés du tout.
Non, moi non plus. Je l'ai essayé.
Pas fluide encore.
Tu cliques sur ta région. Là, après ça, il faut que tu recliques sur ton secteur. Il y a comme 4 clics à faire avant d'arriver à un
prix. Faut que tu t'authentifies avec le service d'authentification gouvernementale.
Ouais, j'imagine que ça s'en vient.
Attends.
Puis là, ça va.
Tu rentres ton assurance sociale. Oui. Sur soi une lettre avec un code de connexion.
Mais par la poste.
Par la poste.
Si c'est pas déglacé, ton entrée, bonne chance. On fait des jokes, mais c'est pas fluide.
Non, c'est pas fluide. C'est le troisième volet de sa clique, ça s'en vient. Ça va super.
Merci pour l'idée. À peaufiner.
Ça va super bien aller. Antonine Iaccarini, 1er avril. Ça dit poisson d'avril.
Ah, et là, le dans festival poisson, du malaise.
Ben oui, là, nos politiciens font toujours plein de poissons d'avril. Ils sont toujours bien énervés. Puis là, ils se trouvent drôles. Mais t'en as retenu un bon.
Oui.
Vraiment un bon. Puis ça m'a ramené à un événement que j'avais oublié, mais que je me suis tout de suite souvenu. On l'écoute, c'est Virginie Dufour, députée pour le Parti libéral du Québec. C'est vraiment drôle.
En grande primeur, je vous annonce le retour du fameux cocoton de Laval. Les petits comme les grands sont invités à venir à la chasse au coco en espérant que ça soit avec la même énergie qu'on a vue en 2014. Alors, c'est un rendez-vous au centre de la nature.
418-971-101, vous souvenez-vous du cocoton de Laval?
Comment ne pas s'en souvenir? Moi, j'aimerais ça pas m'en souvenir pour le revivre aujourd'hui pour la première fois.
En fait, on veut pas revivre ça. Non, ben, je pense qu'il y a eu des enfants traumatisés.
Ah, tout vraiment? Le monde, même des adultes.
Oui.
Vas-y, Antoine, fais-nous un résumé de ce qui était le cocoton de Laval. Là.
Écoute, il y avait eu une belle activité, une belle chasse aux œufs, mais il n'y avait pas assez d'œufs pour tout le monde, puis il y avait trop de gens qui s'étaient présentés. Alors, pour avoir un œuf, il fallait quasiment se battre.
C'est ça.
Puis il y avait des. Tu sais,
quasiment?
Ben, il y avait des parents qui poussaient, là.
Oui, il y a des parents qui ont sauté par-dessus la barrière.
Ben, des adultes, des enfants.
Qui ont poussé les enfants parce que ce coco-là, il sera pas au petit Samuel.
C'est mon enfant qui va
aller à mon Emmanuel 3 ans.
Non, mais l'affaire, en plus, c'est qu'il avait perdu patience parce que l'activité gratuite, en passant, qui était organisée là, à Laval, pour eux, c'était trop long avant que ça commence. Ouais. Fait qu'ils avaient défoncé les barrières.
C'était comme Woodstock, là, 1998. Là.
Oui, c'était épouvantable. C'est là que tu vois que, bon, l'effet de foule, quand même, mais même si c'était juste des petits chocolats qui goûtent le fond de papier d'aluminium dans un coco, il y avait une folie gratuite.
Oui.
J'avais amené mon enfant pour qu'il ait son coco, il est reparti
avec
son coco.
C'est pas vrai qu'il va repartir d'ici sans son coco.
Il y avait 6 000 enfants pour 10 000 œufs. Ça veut dire que tu as des parents qui s'en permettaient plus qu'un dans leur panier puis qui en voulaient en sa prestige.
Un instant. Une chasse aux œufs, tu repars avec un œuf. Moi je trouve que on va aller chez Dollarama, on va s'acheter un petit sac d'œufs. Tu vas finir avec une vingtaine d'œufs au moins.
Ben moi, si j'avais été dans la foule de 10 000 personnes au total, j'aurais dit à la mère des enfants et à mes enfants, savez-vous quoi? On passe par le Dollarama, on s'en va faire une vraie belle chasse au coco dans le cours chez nous. Ça se serait réglé comme ça. Ce qui est drôle dans Virginie Dufour, c'est qu'on le réécoute, puis après ça, on passe à un autre sujet, mais c'est la fin que je trouvais très drôle.
En grande primeur, je vous annonce le retour du fameux cocoton de Laval. Les petits comme les grands sont invités à venir à la chasse au coco en espérant que ça soit avec la même énergie qu'on a vue en 2014. Alors, c'est un rendez-vous au centre de la nature.
La même énergie qu'en 2014!
Elle est drôle, elle! Honnêtement, là, Virginie Dufour, c'est une députée de la région de Laval. Et je trouve que c'est une députée qui est originale. Elle n'est pas hyper connue. Là, si on fait un vox pop dehors, je pense pas que les gens vont nécessairement la reconnaître. a fait beaucoup de posts de jardinage et en tant que jeune quarantenaire, ça me parle.
Ah, okay?
Elle
le
a tout un énorme potager, je l'aime beaucoup. Yes. Là, pour les opinions politiques, ça, des fois, on repassera. On n'a pas toujours les mêmes opinions politiques, mais je trouve qu'elle est comique.
OK, je m'excuse. Ça coûtait 3$ l'activité. Je viens de me souvenir.
Ah, c'était pas gratuit.
Non, parce que je viens de me souvenir qu'il y avait eu une demande de
remboursement.
Ah! Les parents, c'est pour ça que j'ai fait. OK, attends, il me semble que c'était 3$, puis les gens voulaient être remboursés pour ça. Mais est-ce que je suis une mauvaise personne de me dire j'ai quand même aimé ça? Genre, j'ai quand même aimé ça de voir l'humain dans sa plus simple expression pour faire « OK, ça peut aller jusque-là. »
Ben, t'es sous une honte, là, comme c'est... il est écrit par texto.
Oui.
Là,
mais c'était le début de la pandémie avec le papier de toilette.
On passe d'une chicane de coco à une autre chicane. Les vacances du maire Marchand. Voici ce que Catherine Vallière-Roland, mairesse suppléante, a dit à propos de la vidéo qui a été diffusée de Bruno Marchand, un spectacle à Paris.
Que oui, il est allé trop loin. Il y a certains éléments que je dénonce, notamment la vidéo à laquelle vous faisiez référence tout à l'heure. Je pense que c'est important de le faire. Il ne faut pas glisser. Il faut, continuer de créer un climat de collaboration. D'ailleurs, Monsieur Lachance est le premier à souhaiter et à demander à ce qu'il y ait une bonne collaboration. Ce genre de geste-là n'y contribue.
Et voici la réplique de Stéphane Lachance.
Je pense pas, c'est public. Instagram, n'importe qui aurait pu voir ça. Ben, on n'a pas ridiculisé la photo, là. Je veux dire, on voit la photo, tout simplement. Les gens se font une idée, puis...
Ben, à partir du moment où c'est sur un média. Ben, écoutez, durant la campagne électorale, il y a beaucoup de gens qui ont pris des photos de moi dans des anciennes publications publiques, puis ils les ont publiées. Fait que, je veux dire, j'ai déjà vécu ça aussi. J'ai joué dans ce film-là, moi aussi, là.
T'en penses quoi, Antonine Iaccarini? Moi, je te dis ce que j'en pense. Moi, j'en pense que ça me dérange pas. T'es une personnalité publique, puis ton adversaire, il décide de mettre ta photo à un spectacle à Paris quand t'es censé être au conseil de ville. J'ai zéro problème avec ça. J'en pense que Respect citoyen aurait-tu se garder une gêne parce que pendant la campagne électorale, Stéphane Lachance s'est plaint. Pourquoi on parle de mes étiquettes? Non, on parle des étiquettes parce que c'est du public.
C'est public c'est et ça démontre publique. Ta gestion des choses.
Exactement. Mm-hmm. Et j'en pense aussi que le maire Marchand n'aurait jamais dû partir en vacances après sa mission en Alberta dans les débuts du travaux du tramway avec la manifestation pour sauver les arbres, etc., etc., etc.
Écoute, on n'aura pas un gros débat aujourd'hui, hein, Jeff, parce que je trouve que tu fais un excellent résumé de la situation. C'est que le timing est ordinaire. Il vient de partir en Alberta. Oui. Et c'est en train de commencer à coller qu'il n'est jamais là, là. Puis, tu sais, il peut bien accuser l'opposition puis les médias. Ben qu'est-ce que tu veux? C'est ça l'impression.
Les gens disent qu'il est beaucoup à Montréal la fin de semaine avec sa conjointe. À preuve, il donne des entrevues à Montréal.
Puis, en plus, c'est un peu l'envers de la médaille aussi de l'exposition sur les médias sociaux de la vie personnelle des politiciens. Mm-hmm. C'est, à un moment donné, ben on est au courant de ce que tu fais parce
c'est
que
ça.
Ta blonde pose tes photos, tu poses tes photos. Donc, moi, je pense que c'était. Fair play de la part de Stéphane Lachance de partager la photo. Est-ce que c'est de la belle politique? Ben non. Est-ce que ça dépasse une ligne quelconque? Tu sais, c'est pas un paparazzi, là. Il est pas allé prendre des photos. Il s'est pas caché dans une poubelle prendre des photos de la vie privée, là. Ouais. Non, donc, moi, je pense que... Il est pas en filature, là. C'est correct. Puis, c'était effectivement des photos qui étaient publiques. Est-ce que je trouve que M. Lachance, disons, effectivement, c'est un peu scandalisé du traitement que lui a reçu versus maintenant comment... Bien sûr. Fait que, bref, tout le monde a, je trouve que tout le monde a tort. Voilà, tout le monde n'a pas raison.
Question de gérant d'estrade. Est-ce que tu penses qu'il y a à avoir une conversation avec sa conjointe à ce sujet-là, à se dire, là, on est ensemble, mais moi, je suis en politique. Peut-être qu'on va devoir slacker l'exposition sur les médias. Est-ce que toi, mettons, c'est ce que tu conseillerais à des gens si tu étais encore en politique et en gestion de tout ça?
Moi, je pense que ça, c'est vraiment personnel à chacun. Il y en a qui vont vouloir mettre leur vie privée de l'avant. On en voit des élus plus jeunes aussi, des maires, mairesses qu'on voit qui exposent un peu plus leur vie personnelle. Moi, tant que tu t'assumes après... Tu sais, à un moment donné, Justin Trudeau, quand il s'est séparé, là, il disait, là, je vais vous demander de respecter ma vie privée. Bien, quand tu as décidé de faire de ta famille une partie intégrante de ton brand politique. Ils mettaient de l'avant, ils jouaient un rôle public.
Puis ça joue en ta faveur.
Ça joue en ta faveur. Fait que là, tu peux pas... Après ça, tu peux pas dire que c'est pas une information qui est publique. Moi, je trouve que dans les dernières années, on a beaucoup vu ça, justement, avec l'arrivée des médias sociaux. Parce que, oui, des fois, on voyait les épouses et les époux un peu plus, mais là, on voit beaucoup les enfants, notamment. Puis ça, moi, je suis un petit peu plus têteuse là-dessus.
La femme de Pierre Poilievre qui est allée parler de son enfant qui est autiste.
En même temps, ça aide des gens. C'est le fun de voir que les politiciens sont des vraies personnes. Mais bref, je pense que c'est vraiment une décision qui est personnelle. Puis c'est des discussions qu'ils ont à avoir entre eux. Je suis sûre qu'ils les ont eues, en fait, ces discussions-là. Parce qu'effectivement, quand tu es politicien ou politicienne et que tu es avec une autre personnalité publique, bien là, tu as deux vies publiques à conjuguer ensemble. Donc, effectivement, ça peut amener toutes sortes de discussions. Mais sur le fond des choses, je pense que les politiciens ont le droit de prendre des vacances. Mais là, c'est vrai que le timing est bien particulier.
Oui, comme Alicia Despins nous a dit hier, et elle avait entièrement raison, elle a dit, pour ce qui est d'un politicien municipal, il y a le temps des fêtes. On a même enlevé le premier conseil de ville en janvier pour prolonger cette période-là. On a enlevé le conseil de ville pendant la semaine de relâche pour, justement, travail, famille, l'équilibre. Et on a 2 semaines de la construction. Fait qu'à un moment donné, tu as des moments pour prendre des vacances. Je suis correct, là. Je veux que les politiciens prennent leurs vacances. Mais il y a des moments, et c'était surtout pas le moment avec ce qui se passe en ville. Québec a besoin et mérite un maire présent.
Oui, puis, tu sais, il y avait aussi l'argument de la mairesse suppléante qui dit on est tout un conseil municipal, il y a d'autres gens qui peuvent, bien sûr, mais quand même, quand t'es le maire ou quand t'es le premier ministre à d'autres paliers de gouvernement, tu sais, quand il y a eu le. Je fais un petit parallèle avec ce qui se passe au fédéral. Mark Carney nous avait dit ça. C'est pas grave si je vais pas au débat sur ce qui se passe en Iran, parce que j'ai des ministres qui vont y aller. Ben non, ça n'avait pas passé, tu sais, à un moment donné.
Ça.
Là,
c'est
pas pareil.
T'es le chef, faut que tu sois présent. Parlant de chef, on pensait que la CAQ était mort hier, mais là, il y a des nouveaux sondages qui sont sortis qui disent qu'il y aurait peut-être un petit soubresaut si c'est Christine Fréchette. On toucherait le 15-16%. Mais surtout, une donnée intéressante que tu m'as envoyée, Antonine, c'est que la perception des politiciens, l'opinion favorable envers les politiciens, Christine Fréchette, 42%. C'est un bond de 20%. Paul Saint-Pierre Plamondon, deuxième, à 41%, mais un faible bond de 1%. Et Charles Milliard à 35%, bond de 19%, ferme le podium. Donc, Christine Fréchette, si elle est nommée chef de la CAQ, il va falloir la surveiller de près.
Bien, c'est ça. Donc, on voit que l'équipe de Christine Fréchette essaie de pousser certaines données pour démontrer que, oui, c'est dur pour la CAQ, mais Christine Fréchette, elle, comme personne, a des données intéressantes qui sont à son avantage. Elle est plus populaire, est à égalité avec Paul Saint-Pierre Plamondon, qui, on le sait, est un politicien qui a une belle popularité en ce moment. Avec Charles Milliard, qui vient d'arriver... même à le bas de plusieurs points. Là, si,
à le bas de 7%.
À le bas de 7%, ce qui est...
Et même en meilleure progression que Milliard.
Donc, évidemment, on a le goût de comparer avec M. Drainville. Qu'est-ce que ça donne? Mais quand on voit que M. Drainville est à 28%, il y a à peine 2 points de plus que M. Duhaime d'opinion favorable. T'sais, on en a déjà parlé ensemble et je le réitère, c'est que quand quelqu'un ne t'aime pas, c'est rare qu'il va se mettre à t'aimer.
Ouais.
Quand quelqu'un t'aime en politique, éventuellement, l'usure va faire qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui ne vont
pas t'aimer. François Legault est l'exemple.
C'est un excellent exemple, mais tous les politiciens passent un peu par là, à part de vraiment très rares exceptions. Donc, c'est sûr que si tu pars à 28% versus quelqu'un qui part à 42%, et que là, en plus, on a la marque CAQIS qui est ultra usée, bien, c'est sûr que si j'étais dans l'équipe à Christine Fréchette, je pousserais ces chiffres-là. Ça fait une différence. Puis, dans certains partis politiques, tu sais, si on compare, par exemple, avec des courses à la chefferie du Parti québécois, est-ce que ça avait vraiment un impact, la popularité dans le grand public? Peut-être un peu moins. C'est des partis qui sont plus idéologiques. T'sais, on va être vraiment plus sur les idées. Qu'est-ce que tu nous proposes? Est-ce que ça nous plaît? Mais à la CAQ, qui est un parti qui, en fait, a été créé pour gagner. Là. C'est pas pour avoir raison. Mm-hmm. Là. Puis même, des fois, on faisait des gros compromis sur bien des affaires.
L'aile rouge, l'aile bleue fait des gros compromis pour se retrouver au centre.
Ils sont souples. Ils sont très souples.
Oui, ils sont souples. Donc, ils font la split. Tout le monde fait la split.
Tout le monde faisait la split. Puis, ben, puis ça a l'avantage aussi de dire, ben moi, je veux qu'on gagne. Fait que je vais faire des compromis. Mais Tout ça pour dire qu'il y a une différence là, en ce moment. Là, parce qu'on nous avait un peu, avec le sondage qui est sorti cette semaine, on était un peu sous l'impression qu'il n'y avait rien à faire. Que la CAQ, peu importe ce qui se passe, se retrouvait dans le trou. Et que Mme Fréchette, oui, il y avait eu un rebond au début de la course, mais que ça s'est calmé. Là, on nous envoie des données qui démontrent que quand même, il y a une différence. Et qu'est-ce qu'on constate? Ben, c'est que M. Dreville ne lâche pas de l'attaquer. Là.
Non, exactement. Il l'a encore attaqué aujourd'hui, notamment sur sa politique en immigration. Et d'ailleurs, Anthony, on écoute ce que Jean-François Roberge nous a dit. Tu as participé à cette entrevue-là avec nous cette semaine concernant les seuils d'immigration. Est-ce que Jean-François Roberge nous a menti? On l'écoute en premier lieu.
On a fait évaluer la proposition de M. Drainville. Il a raison de dire que ça voudrait dire à peu près 18 000 personnes. La proposition de Mme Fréchette, c'est à peu près 45 000 personnes. Donc, dans les deux cas, il y a moyen de faire une transition, de respecter nos seuils annuels.
Et là, je me souviens, Antonine, que tu as dit un peu plus tard dans l'entrevue, « Ouais, comment vous allez faire pour admettre du monde au PSTQ si vous promettez une clause grand-père à plus de 100 000 personnes qui sont sur le PEC présentement? » Puis là, Jean-François Roberge, j'ai essayé de se débattre un peu, mais on voyait que l'eau commençait à monter. Mais là, l'eau est vraiment montée. Et c'est la presse, si je ne me trompe pas, qui a sorti ça aujourd'hui.
Ouais, donc, selon la presse, source au ministère de l'Immigration qui indique qu'on serait plutôt à 125 000 immigrants supplémentaires.
Aïe, aïe, aïe. Et là, le seuil est de 45 000.
Puis, tu sais, moi, je suis pas née de la dernière pluie, là. Je le savais qu'il était en train d'essayer de mélanger les affaires. Parce que quand il nous a dit, bon, pour Mme Fréchette, c'est 45 000, le seuil, c'est 45 000.
C'est ça.
Donc, il fait exprès. Il a essayé de noyer le poisson, là. Je suis désolée. Puis, moi, j'ai reviré ça dans tous les sens. Ça ne balance pas.
Il l'a fait intentionnellement parce que on vient de parler du 42 % d'approbation de Christine Fréchette.
Je pense qu'il a appuyé Mme Fréchette. Il veut l'aider. Mm-hmm. Donc, il n'a pas menti. Il m'a répondu autre chose. Tu comprends? Moi, je dis, oui, mais ça fait combien d'immigrants la solution de Mme Fréchette? Il me dit 45 000. Ça fait pas 45 000. Parce que ce que Mme Fréchette dit, c'est je vais respecter le seuil de 45 000. Mm-hmm. Jeff, tu peux pas respecter le seuil et satisfaire les orphelins du PEC.
Mais non, c'est impossible.
En même temps, ça marche pas.
Impossible, okay. Il y en a qui vont s'en aller.
Soit tu les étales pendant des années, alors les délais vont être hyper longs.
Mais elle a dit 2 ans.
Elle a dit 2 ans. Donc, la conclusion de ça, c'est que c'est premier arrivé, premier servi. Parce que là, ça, c'est l'autre affaire avec la solution de Mme Fréchette. C'est qu'en rouvrant le PEC, parce que le PSTQ, on peut choisir selon des critères. Donc, on pouvait, par exemple, prioriser des infirmières, mm-hmm. des enseignants, d'autres corps de métier prioritaires. Avec le PEC, c'est premier qui remplit les critères, premier servi. Donc, il va y avoir énormément de déçus si elle dit « OK, je l'ouvre 2 ans, mais après ça, quand une fois qu'on a atteint nos seuils, c'est fini. » Bien, je veux dire, on ne fait que pelleter le problème par en avant, finalement, et les gens n'auront pas tant de prévisibilité. Parce que c'était ça, le drame des orphelins du PEC, c'est qu'eux, ils voyaient leur parcours d'immigration être capable de remplir les critères et ils pensaient pouvoir appliquer au PEC éventuellement. Le PEC ferme. Wow, OK, on se retrouve un peu. Puis on nous dit, allons vers le PSTQ, mais c'est pas les mêmes critères. Et
exactement.
En plus, le fédéral coupe dans les permis de travail. Donc, ils ont vu toutes les portes se fermer devant eux. Donc là, Mme Fréchette nous dit, ah, mais c'est correct, je vais le prolonger de 2 ans. Mais ça va être encore une loterie. C'est le premier arrivé, premier servi.
C'est ça.
Donc, ils vont encore se faire... Il y a plein de monde qui vont se faire fermer la porte dans 2 ans devant le nez, puis on va se retrouver dans la même situation.
Fait que c'est une fausse promesse. C'est juste de remettre le problème à plus tard. Moi, j'appelle ça pelleter par en avant.
Moi aussi, je trouve que c'est pelleter par en avant. Puis je vais vous dire, M. Drainville aussi, il dit un peu des bêtises, des fois, sur l'immigration. Il sursimplifie. Là, il nous a dit, ben moi, c'est 18 000, puis après ça, ben on soustrait des prochains mm-hmm. immigrants. Fait que finalement, lui aussi, repousse le moment où est-ce qu'on va pouvoir utiliser l'autre programme plus efficace dans le temps. Mais au moins, j'ai l'impression d'avoir les vrais chiffres puis qu'on me dit un peu les vraies choses. Puis finalement, depuis le début de cette histoire-là,
ouais,
la solution de Jean-François Roberge, c'était la bonne. À moins que tu veuilles tu sais, que les seuils d'immigration, ça ne t'intéresse pas puis tu penses qu'on peut en prendre plein de plus, c'est bien correct, on a le droit de débattre là-dessus. Mais une fois que tu dis que des seuils de 45, 50 000, c'est assez, puis qu'on a besoin de mieux cibler l'immigration, ben moi, je veux que le PSTQ soit fonctionnel le plus vite possible. Puis... Tu sais, avec ce programme-là, là, mettons que tu veux monter les seuils d'immigration, et tu peux le faire pareil, là, mais tu peux le faire à travers un programme qui te permet de jouer avec les critères puis d'adapter un peu plus au contexte économique, aux différentes régions et leurs besoins. Donc, ce que Jean-François Roberge disait, c'est on comprend qu'il y a des gens déçus, on va vous passer dans le PSTQ. On va le faire, les gens qui parlent français, puis on va même faire un effort supplémentaire. Ça a toujours été ça, la bonne solution. Mm-hmm. Puis là, les deux candidats à chefferie ont... décidé de vouloir se démarquer, là, ben, il aurait peut-être dû juste appuyer leur ministre là-bas.
Cette course qui fait tellement mal à la CAQ, ça m'a fait penser à de quoi? On est trop fiers, les boys, à la vie comme à la guerre. Un chum, c'est un chum. C'est Lionel Carmat de François Legault, ça?
C'est des chums.
Comment ça va avec sa famille, M. Carmat? On n'a pas d'écho de ça.
Ben,
hein?
Parce qu'en plus, tu fais bien de le souligner, étant donné que l'entente avec les médecins spécialistes, c'est pas réglé.
Exactement. Donc là, tantôt, Lionel Carmat s'est présenté au micro et il a dit ceci, je vous le fais entendre.
Puis je tiens à rappeler aussi que quand j'ai quitté, ben, François, il était là pour moi. Puis ça a été un moment incroyable. Et c'est important pour moi d'être là avec lui cette dernière semaine. François, là, c'est un grand homme politique, un grand chef d'État. Il a fait plus que quiconque en services sociaux puis en jeunesse, puis je tiens à le redire. Et je suis très heureux que notre aventure à la CAQ se termine comme elle a commencé, ensemble.
Et là, si vous aviez été au Scrum, vous auriez entendu « Ouais, mais c'est pas réglé avec les médecins! Pourquoi vous êtes avec François Legault? » C'est ça que les journalistes criaient, mais ils sont sauvés parce qu'un chum, c'est un chum. Je le comprends, Marc-Lionel Carmat, de dire « Hey, c'est la dernière semaine de François Legault. Je vais aller m'asseoir avec la CAQ. Je vais être avec lui. C'est mon grand chum. C'est lui qui m'a amené en politique. C'est avec lui que j'ai livré des combats. » Ceci dit, il n'y a rien de réglé avec les médecins spécialistes, fait que ça fait quand même bizarre, mais je veux pas le critiquer parce que j'aurais sûrement fait comme lui. J'aurais sûrement dit, hey, sais-tu quoi, mon chum?
On va boucler la boucle.
Bientôt, on va boucler la boucle ensemble. On s'aime, puis on va le montrer au monde qu'on s'aime.
Oui, puis, bon, il y a plusieurs choses là-dedans. La première, c'est que sur l'entente avec les médecins spécialistes, c'est vrai que c'est à cause de ça qu'il est parti, mais c'est M. Dubé qui était ministre de la Santé à l'époque, et il était extrêmement intransigeant. Là. C'était comme si c'était irréconciliable. Là, en ce moment, je pense qu'on va finir par arriver à quelque chose. Je pense pas que M. Carmat va reclaquer la porte. On verra, mais je pense pas que le gouvernement va se relancer dans une aventure le tout pour le tout, comme on a vu avant Noël. La deuxième des choses, c'est que la politique, c'est très ingrat. Et les chefs finissent tous mal. Dans la vie, là, quand t'es chef, premier ministre, ben ça finit rarement dans la gloire. Là. Ça finit sur une défaite, sur une crise ou sur une démission. M. Legault, en ce moment, ben son étoile a beaucoup pâli. Il a subi l'usure du pouvoir. Il n'est pas très populaire. Mais, tu sais, moi, je l'ai déjà dit, puis je vais le redire. Moi, je pense que quand il va avoir un petit peu disparu de l'espace public pendant quelques années, ça va se rééquilibrer. Là.
C'est clair.
Comme ça a été avec Mme Marois et comme c'est avec Jean Charest en ce moment. Hein.
Jean Charest fait plein de conférences. Ben oui.
Tout le monde applaudit.
Hey, Jean! On oublie Corée Rouge pour la corruption.
Tout le monde a oublié ça. Là. Donc, je pense que ça va se rétablir et je trouve que le geste de M. Carmat est un geste de respect parce qu'il y a beaucoup de députés qui ont sacré leur camp du bateau. Oui. On est d'accord. Mais ces gens-là ont été élus pour une seule et unique raison.
Parce que François Legault était là puis il avait géré la COVID.
Puis il était populaire à ce moment-là.
Exactement.
Donc, je pense qu'ils lui doivent une certaine reconnaissance. Est-ce que tout a été parfait? Est-ce qu'ils ont chacun leur raison? Bien sûr. Mais dans la vraie vie, si tu t'étais présenté comme indépendant, là, sans la bannière, Coalition Avenir Québec, François Legault, tu n'aurais pas été élu.
Exactement. En terminant, en une minute pour terminer ce caucus avec Antonine Iacarini, c'est du lundi au jeudi à l'émission On en jase de midi à 12h30 sur Boulevard 101. Parle-moi donc de Christine Noem aux États-Unis, de son chum, puis du fait qu'il fait de la bimbo quelque chose, là, je sais
bimboïsme.
Plus. Bimbofication.
Bimbofication.
Ouais.
C'est un mot que je connaissais pas. Je dois vous dire que j'étais pas familière avec ce fétiche. Dans le fond, Christine Noem, pour ceux qui s'en souviennent pas, parce qu'elle a un petit peu disparu récemment, c'est qu'elle était à la tête du ICE. Vous la googlerez, vous allez la reconnaître probablement. Elle faisait beaucoup de vidéos pas très gentilles envers les personnes immigrantes, notamment. Beaucoup de gens qui la qualifient de cruelle. C'est une égérie du mouvement MAGA aux États-Unis. Et il y a un média britannique qui a sorti une nouvelle comme quoi le mari de Mme Noem pratique cette forme de fétichisme. Pour vous le décrire, là, en quelques mots, c'est, dans le fond, il se met de très grosses prothèses mammaires. Il se met des gros seins.
Il se déguise en femme.
Il se déguise en femme. Et il y a des photos, là, vous le googlerez, là, M. Brian Noem. de lui avec ça. Et il va sur des sites, il rencontre des gens, il fait appel aussi à des services sexuels. Là, vous vous dites, mais c'est ses affaires, surtout si c'est avec, entre adultes consentants. Et vous avez bien raison, on s'en fout. Le problème, c'est que, en tout cas, moi, l'élément qui me frappe, c'est ces gens ultra-conservateurs là, de la droite chrétienne américaine ou d'ailleurs, qui font la morale aux gens, puis qui disent la famille traditionnelle. Puis c'est toujours eux autres qui se font pogner à faire des affaires de même. C'est immanquable à chaque fois, puis souvent aussi...
Il va y avoir un divorce dans leur gang, puis ils vont dire « ça n'a pas d'allure que tu divorces, mais ils se mettent des prothèses de ma mère. »
Souvent les extrêmes au niveau de la psychiatrie et de la psychologie, on est capable d'expliquer pourquoi une personne est allée là. Puis des fois, ce que tu nous racontes là peut peut-être allumer une lumière sur quelque chose qui...
Écoute, il y a bien le droit. Mais après ça, tu sais, le mouvement MAGA n'est pas particulièrement doux avec la communauté LGBT. Moi, je résumerais ça en disant des fois que j'ai l'impression que certaines de ces personnes-là qui s'attaquent à ce qui les excite. Ouais. Voilà!
Mais le bimboïsme, on va s'en souvenir.
Oui, exactement. Ça aurait été dit par Antonine Iaccarini en vous rappelant que Donald Trump fera un discours à la Nation 21h ce soir et que, on va en parler demain dans le caucus, Antonine.
Absolument.
On va écouter ça avec attention. Donald nous raconter plein de mensonges sur l'Iran. Dans un instant, Boulevard 102.1, on a la directrice nationale de la DPJ, Leslie Hill, qui va nous parler justement du renforcement en première ligne pour la DPJ. Et immédiatement après, on aura Nancy Audette, journaliste, auteur, conférencière et ex-enfant de la DPJ, pour justement commenter cette entrevue avec Mme Hill et parler de ce renforcement de première ligne. C'est à Boulevard 102.1 l'émission. On en jase!